L'IUT de Digne accueillait la 11e Académie de langues anciennes cet été.
Une boutade en forme de défi lancée voilà plus de 10 ans et l'Académie de langues anciennes est pour la 11e fois dans la cité préfectorale des Alpes de Haute-Provence. Fêtant ses 33 ans d'existence, l'Académie unique en Europe a drainé des passionnés d'histoire, de civilisation et de langues parfois disparues. Jean-Marc Leca a interviewé Philippe Cassuto, professeur des universités en sémitique, et Sidney Hervé Offrère, égyptologue archéologue français également, directeur de recherche au CNRS. Tous deux maîtrisent parfaitement leur sujet et nous livrent quelques anecdotes. Ils expliquent l'origine du projet et leur amour pour notre région.
Combien de langues sont recensées de par le monde ?
On recense 2000 langues dans le monde, dont certaines sont mortes, d'autres vivantes. Et cette année, c'est un peu l'originalité, puisqu'on a un intervenant qui nous vient de l'Académie des sciences de Russie, qui enseigne également, puisqu'il est professeur aussi à l'université Lomonosov. Il nous fait un séminaire d'introduction à la sociolinguistique, à la linguistique. Et une de ses interventions a pour titre « Langue vivante, langue morte et langue zombie ». C'est-à-dire, il y a des langues qui sont mortes, mais pas tout à fait mortes, et qui reviennent dans nos langues vivantes, et un petit peu le rapport qu'on entretient avec ces langues qu'on dit mortes, mais qui finalement sont pas si mortes que ça, parce qu'elles reviennent. L'exemple du latin est parfait, hein, puisqu'on l'utilise en particulier aujourd'hui pour tous les instruments informatiques de typographie.
Est-ce qu'il y a des langues qui en entraînent d'autres ?
Oui, toujours. On a des groupes de langues. Ici, on a deux groupes principaux de langues, des langues indo-européennes, le latin, le grec, le sanskrit, qui est la langue d'origine, ou en tout cas qui sert à reconstituer le proto-indo-européen. Et la grande originalité, c'est que nous avons aussi un cours de hittite, qui là est une langue pour le coup indo-européenne, mais beaucoup plus difficile d'accès par son système d'écriture. Et c'est vrai que pour un étudiant, trouver un cours de hittite, ça va être difficile. À ma connaissance, en France, il y a celui de l'Akato. Il faut y aller une fois par semaine. Donc un étudiant qui serait, comme c'est le cas cette année, d'Espagne ou d'Italie, il a peu de chances de pouvoir y accéder.
Il y a aussi un cours de hittite à Paris 1.
Voilà, Panthéon.
Puis peut-être qu'il y a aussi l'arménien, que nous avons aussi enseigné, qui n'est pas enseigné cette année, mais qui a toujours fait pratiquement partie évidemment des langues enseignées. Donc ça fait encore une autre langue indo-européenne.
Et donc Gadine, combien de langues sont enseignées ?
Alors cette année, on est à 16. Même si notre vocation n'est pas de dégager des marges bénéficiaires, pas non plus qu'on se mette... il faut qu'on soit équilibré. Mais on a ce séminaire qui s'appelle « L'homme et sa langue », Victor Pochomovski qui l'assure, et lui-même, linguiste distingué, certes, mais il est spécialiste de Hausa, donc la grande langue du Nigeria. Je travaille sur le plan scientifique, alors là, pour mes publications sur les traductions de la Bible en Hausa. Donc si vous voulez, je connais un petit peu Boko Haram, mais... alors Boko, justement, c'est l'utilisation de l'alphabet latin pour écrire le Hausa. Sinon, on utilise, quand il à période un peu plus ancienne, il y a une soixantaine d'années, on écrivait encore au Nigeria avec l'alphabet arabe qu'on appelle Adjami.
J'aimerais rajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que, je dirais, dans son principe originel, il s'agissait d'enseigner des langues bibliques non enseignées dans le cadre universitaire. Donc il s'agissait d'enseigner l'hébreu biblique et...
Le grec.
Et le grec biblique. Et l'araméen.
Et c'était autour, notre base.
Voilà. Et autour de ces trois langues, se sont greffées naturellement ce qu'on appelle les langues filles de la Bible. Et on a agrégé, au fur et à mesure, un ensemble de langues conséquents, si vous voulez. Et aujourd'hui, je dirais, l'enseignement, le caractère biblique des langues est passé un tout petit peu en retrait, parce qu'on fait des concessions, au grec classique, et nos enseignants, enseignent, un panel de langues un tout petit peu plus large, voyez-vous. Notre groupe a été formé par deux chercheurs du CNRS, qui étaient, Jean Marguin et
Christian
Enfou. Et tout cela s'est agrégé autour de ces deux personnalités, à la fois chercheur et universitaire. Voilà.
Combien de temps existe-t-il ce type d'établissement ?
Alors, nous existons maintenant depuis 33 ans.
En Europe, c'est une première à Digne. Pour vous, est-ce un gage de qualité ?
C'est venu avec le temps. On a appris à connaître Digne. C'est une région qui est idéalement placée justement pour ce qui est transfrontalier. La population locale en est l'image et nous on estime que justement cet emplacement géographique, ce territoire-là, ouvre à, je dirais, un beaucoup plus large public. On ferait la même action sur Aix-en-Provence, que j'aime beaucoup, hein. On n'aurait que du franco-français. Et là, on sent que le positionnement de Digne nous ouvre des perspectives internationales. On a régulièrement des Italiens qui sont là. Je dirais, bon, ils y sont naturellement. Mais ils y viennent parce qu'il y a cet enseignement particulier. On a des gens qui ne sont pas logés dans les résidences parce qu'ils habitent ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu délibérément. C'est un territoire qui nous a adopté. La grande réussite de Digne, alors je ne sais pas si c'est dû au territoire, mais c'est la réussite du latin, qui longtemps a végété. C'est absolument incroyable. Et le latin s'est vraiment développé ici.
Et puis, grâce à des professeurs de grande qualité, avec un sens du contact, on a eu, je veux dire, beaucoup, on a réussi à créer deux années, deux niveaux de latin.
Pour vous donner un exemple de cette ouverture à l'international, j'ai été contacté par un collègue américain qui souhaitait venir avec tout un groupe pour faire des lectures de César en latin et profiter du cadre pour que ses étudiants visitent la Provence. Ça s'est pas fait au dernier moment parce qu'on n'a pas trouvé les accords nécessaires. Je dirais de notre côté, parce qu'avec la fusion des trois universités, il y a quelques lourdeurs. Du côté américain, c'est un petit peu difficile à gérer aussi, mais c'est des expériences qu'on compte recommencer. Parce que franchement, avoir un groupe d'Américains dignes qui viennent faire du latin et visiter la région, je trouve que là, c'est la vraie réussite d'une politique territoriale.
Est-ce que les structures hôtelières peuvent accueillir tout ce monde ?
Ça, ça a été, un critère déterminant. Quand j'ai pris contact, c'était donc fin 2002, avec Lucien Barbaroux, qui était le directeur de l'époque. Je lui ai dit, écoute, on a une action là qui commence à être une action errante. Pendant un certain nombre d'années, elle était localisée à Saintes, en Charente. Et puis pendant 2-3 ans, elle a erré entre Lille et Lyon, entre l'École normale supérieure et puis des déconvenus. Et Christian Boudignon, qui était le président, qui est toujours à nos côté, me dit, écoute, j'ai un souci, je vais abandonner cette action. Je dis non, il ne faut pas abandonner cette action, on va essayer de trouver un lieu qui est à la fois un lieu universitaire et qui a une capacité d'accueil. Et c'est vrai qu'un des critères, c'est le parc de résidence étudiante que vous avez. Hein. J'ai rencontré Lucien, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais de ton IUT pendant la deuxième quinzaine de juillet ? Il me dit, quelle drôle de question. Il dit, les locaux sont inoccupés. Je dis, écoute, moi j'ai une action de formation qu'un collègue organise, dont il a la responsabilité. Est-ce que c'est possible de l'accueillir ? Et puis, je rajoute, mais je sais que tu disposes d'un parc de résidence universitaire. Est-ce qu'il est complètement occupé la deuxième quinzaine du mois de juillet ? Il m'a dit non, je pense pas. Et donc, on s'est rencontrés et je crois que c'était parti. Mon collègue, quand il l'a vu Digne, il s'est dit, c'est là qu'il faut être.